la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu, c'est une émission qui vous emmène dans la révélation de la parole de Dieu afin de vous restaurer et vous ramener dans le plan de Dieu pour votre vie. La puissance de la parole de Dieu, une émission qui vous communique la vie sur tous les plans. Elle est animée par le prophète Adankon Emmanuel de la Mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. La puissance de la parole de Dieu, que Dieu bénisse votre écoute.
Chers auditeurs et auditrices de la radio, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous étions en train de voir les lois spirituelles de Dieu, où nous sommes sur la troisième loi, que j'ai intitulée la loi de la semence et de récolte. La loi de la semence et de la récolte. Et nous avons vu que cette loi a été instituée depuis la création, où Dieu a ordonné à l'homme de manger les fruits des arbres portant en eux la semence. Par contre, aux animaux, il les a donné de manger des herbes vertes, sans préciser que ces herbes-là doivent porter de la semence, car les animaux ne peuvent pas semer. Par contre, Dieu a donné une intelligence à l'homme de pouvoir reconnaître que s'il veut avoir de la nourriture à tout moment, avoir de l'abondance, il doit apprendre à semer. Sans la semence, il n'y a pas de récolte. Et nous avons vu que la loi de la semence et de récolte détient trois axiomes, c'est-à-dire trois vérités incontournables, des vérités vérifiables en tout temps et en tout lieu, des vérités inchangeables. Et nous avons vu, premier axiome, on récolte ce qu'on a semé. Quand vous faites du bien, vous allez récolter du bien. Si vous faites du mal, vous allez récolter du mal. Et c'est pourquoi Jésus, il nous a donné la règle d'or de la vie. Dans Matthieu 7, verset 12, il dit tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, soyez les premiers d'abord à le faire aux autres. Vous aimez que les gens parlent bien de vous, vous aussi parlez bien d'abord des gens. Vous voulez que les gens vous ouvrent la main, vous aussi ouvrez d'abord la main aux autres. Vous voulez que les gens puissent vous secourir, vous aussi secourissez d'abord les gens. Donc, il n'y a pas. Vous ne pouvez que récolter que ce que vous avez semé. Et nous avons vu le cas de Adoni Bézek, qui est le roi des Cananéens, des Phérisiens que Judas et ses frères ont combattu et qui a été saisi, dont on a coupé les pouces des mains et des pieds, exactement comme lui-même le faisait au roi qui l'attrapait autrefois. Voyons un exemple dans Luc chapitre 7. Un autre exemple de quelqu'un qui a fait du bien. Et vous allez voir ce que lui, il a récolté. Et ça, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 5, Luc chapitre 7, le verset 1 à 5. Luc chapitre 7, le verset 1 à 5. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoyait quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Vous entendez? Ce qu'on aura semé, c'est ce qui moissonnera. Ici, nous voyons un centenier. Écoutez bien. Le centenier ici, c'est un centenier romain, dont le serviteur auquel il est attaché, c'est-à-dire que le serviteur qui est son bras droit, celui qui le sait et qui est son confident, ce serviteur est tombé gravement malade et la maladie est en train de l'emporter. Et c'est la mort qui attend ce serviteur. Le centenier, ayant fait tout ce qu'il peut faire sur le plan médical, et il voit que la maladie de son serviteur ne répond pas au traitement, il voit que c'est la mort qui vient d'emporter. Qu'est-ce que ce centurion romain il va faire? Un centurion romain, c'est que c'est un chef militaire qui a 100 soldats sous son autorité. Donc, il est parti voir les anciens de la ville, de la région dans laquelle il habitait. Il est parti voir les anciens qui se trouvaient à Capernaum. Ben c'est là où il habitait. Et il est parti voir les anciens juifs, c'est-à-dire les chefs de collectivité, les anciens de la région. Et il les a dit d'aller supplier Jésus pour lui, pour que Jésus puisse venir et guérir son serviteur qui est malade. Donc le centurion romain, il reconnaît que Jésus a le pouvoir de guérison. Malgré qu'il est un chef d'armée, il reconnaît que Jésus a le pouvoir de guérir. Combien de personnes aujourd'hui dans l'année savent que Jésus a la solution à leurs problèmes? Bien-aimé dans le Seigneur, ce centurion est parti voir les anciens de la région pour leur demander d'aller supplier leurs citoyens, leurs compatriotes, leur fils Jésus, qui n'a qu'à venir guérir son serviteur. N'oubliez pas que nous avons de voir la loi de la semence et de récolte. Écoutez maintenant la suite. Quand le centurion est parti voir ses dieux, ses chefs, ses anciens, les anciens des juifs là, qui sont dans sa région, pour les supplier, pour leur parler de son problème et de la solution qui se trouve auprès de Jésus, en leur demandant d'aller auprès de Jésus, écoute-moi, les anciens ne l'ont pas rejeté. Malgré qu'en ce moment-là, les juifs n'aimaient pas les romains. Parce que n'oubliez pas, ils étaient sous la domination romaine en ce moment. Ce qui fait que les juifs détestaient les romains. Parce que les romains les ont colonisés. Et c'est les romains qui leur faisaient la loi. Et bien aimé dans le Seigneur, mais ce centurion romain va trouver faveur, va trouver grâce auprès de ses anciens juifs. Pourquoi? Parce que malgré qu'il est romain, il a un bon cœur. Malgré qu'il est romain, il a posé un acte d'amour. Un acte qui a touché tous les habitants, tous les juifs de cette région. Et tout le monde sait que cet homme-là est un homme de bien. Voilà pourquoi les anciens n'ont pas hésité. Et ils sont arrivés auprès de Jésus. Et la Bible dit, regarde au verset 4. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications. Et lui adressaient d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc quand les anciens sont partis voir Jésus, ils ont posé le problème à Jésus pour que Jésus puisse intervenir. Mais nous voyons, Jésus n'est pas en train de céder à leur requête. Et les anciens là, ils vont insister. Ils vont supplier Jésus. La Bible dit qu'ils ont fait d'instantes supplications. C'est que ils ont supplié Jésus. Pourquoi ils ont supplié Jésus? Et dans leur supplication, ils savent ce qu'a dit à Jésus là. Mais si tu ne peux pas le faire pour les autres, au moins ce centenier là, Jésus, il ne faut pas nous honnir. Ce centenier là, il mérite ta faveur. Il mérite que tu lui fasses du bien. Il mérite que tu lui apportes la solution. Pourquoi? Et le verset 5 le dit. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ah! Il a semé quelque chose. Il a semé l'amour. Ce n'est pas l'amour des lèvres. Ce n'est pas l'amour qui sont simplement les expressions de la bouche. Mais l'amour accompagné d'actes. Et c'est cet amour-là qui manque à l'église. Il ne suffit pas de dire, oui, je t'aime de l'amour de Jésus. Alors que dans les actes, c'est autre chose que vous faites. C'est ça qui fait que l'église a du problème. C'est ça qui fait que les frères disant, même les serviteurs de Dieu, ils ont des problèmes. Parce que la plupart d'entre eux prêchent des choses qu'eux-mêmes, ils n'appliquent pas. Le véritable amour, c'est des montres. Le véritable amour, ce n'est pas des paroles, mais c'est des actes concrets. Et bien aimé dans le Seigneur, ce centenier, il n'a pas dit seulement qu'il aimait les juifs, mais il a démontré cet amour en faisant quoi? En les baptisant des synagogues. Donc Jésus, si tu ne veux même pas aller à cause de nous, au moins à cause de lui là, à cause de là qu'il a posé là, c'est normal que tu ailles chez lui. La synagogue dans laquelle tu es venu prêcher l'autre fois là, c'est ce centurion là, c'est lui qui nous a bâti le temple. Bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, ce centurion a posé un bon acte. Et quand vous lisez au verset 6, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand il sentait envers des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Donc Jésus a écouté l'explication des anciens. Quand les anciens lui ont dit que ce centurion mérite que tu lui fasse ce qu'il demandera, car il aime notre nation, et il a démontré en baptisant notre synagogue, Jésus, quand il a entendu cela, il s'est levé. Il a vu que ce centenier-là a posé un acte, a semé de bonnes choses. En retour, il ne peut que récolter aussi de bonnes choses. Mon ami, toi qui vas à l'église, que sèmes-tu dans la maison de Dieu? Que sèmes-tu dans la vie des frères et sœurs? Que sèmes-tu dans la vie de ton pasteur? Que sèmes-tu dans la vie de tes anciens? Toi, pasteur, que sèmes-tu dans la vie des fidèles? Que sèmes-tu ancien dans la vie des fidèles? Frère en Christ, que sèmes-tu dans la vie des sœurs en Christ? Sœurs en Christ, que sèmes-tu dans la vie des frères? Fais beaucoup attention, ce qu'on aura semé, c'est ce qui moissonnera. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Galates 6, verset 9 à 10, va dire ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la foi. Donc, tant que nous avons l'occasion, à n'importe quand nous avons l'occasion de faire du bien, fais du bien, mon frère. Fais du bien aux gens. Et surtout, pour les frères en Christ, fais-leur du bien. La Bible déclare que tu moissonneras au temps convenable. Parce qu'il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Bien-aimés dans le Seigneur, abordons le deuxième axiome, car le temps nous presse. Deuxième axiome de la loi de la semence et de la récolte stipule qu'on récolte plus qu'on a semé. On récolte plus qu'on a semé. Ça veut dire quoi? La récolte est plus abondante que la semence. On récolte beaucoup. Ce qu'on sème là, on récolte beaucoup. Matthieu 13, verset 8. Matthieu 13, verset 8. Jésus lui-même, en donnant la parabole du semeur, il dit au verset 8 qu'une partie de la semence tomba dans la bonne terre. Et cette semence donna du fruit, un grain 100, une autre 60, et un autre 30. C'est-à-dire, un grain semé peut donner 100 grains. Un grain semé peut donner 60. Un grain semé peut donner 30. Vous voyez, vous semez une graine ou bien un grain et vous récoltez 30 graines, 30 fruits. Ou bien 60 fruits, ou bien 100 fruits. Vous voyez, la récolte est toujours plus abondante que la semence. On récolte plus qu'on a semé. Et c'est ce que Jésus explique au verset 23. Il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Bien-aimé dans le Seigneur, donc fais beaucoup alors attention. On récolte plus qu'on a semé. Donc la récolte est plus abondante. Ça veut dire quoi? Si tu fais du bien à une personne, plusieurs personnes vont te faire du bien. Si tu fais du mal à une personne, plusieurs vont te faire du mal. Je le dis encore d'une autre manière. Si tu critiques une personne, il faut attendre à des plusieurs critiques de la part des autres te concernant. Si tu fais du bien aux gens, attends que plusieurs personnes aussi te fassent du bien. C'est pourquoi les gens même de la vie disent que un bienfait n'est jamais perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, que semez-vous? Ce que vous semez, vous allez plus le récolter. Si vous semez de bonnes choses, vous allez récolter beaucoup de bonnes choses. Mais si vous semez de mauvaises choses, vous aurez de mauvaises choses. Si tu sèmes la division, non seulement tu récolteras la division, mais tu en récolteras beaucoup. Si tu sèmes l'amour, non seulement tu récolteras l'amour, mais tu récolteras beaucoup d'amitié. Si tu donnes, on te donnera aussi beaucoup. On récolte plus qu'on a semé. Et quand Jésus parle ici de la semence, c'est la parole. Et tu dois le savoir. Lisons dans Marc chapitre 4. Vous voyez par Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, le verset 14. Il dit, le semeur sème la parole. Ah, vous entendez? Donc le semeur ici, c'est celui qui parle. Et la semence ici, c'est la parole. Donc vous devez faire beaucoup attention. Votre bouche est le semoir. Et la parole est la semence. Ce que vous dites par votre bouche, c'est une semence. Et toute semence qui est semée sera moissonnée. Voilà pourquoi Jésus dit, toute parole qui sort de votre bouche, vous serez responsable de cela. Ce que vous dites par votre bouche, c'est ce qui vous reviendra. Et ça vous reviendra en abondance. Parce qu'il dit clairement que le semeur sème la parole. Donc, la semence, c'est la parole. Et il dit, le verset 20 maintenant, il dit, d'où reçoit la semence? Dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Donc, la parole produit du fruit. Quelle parole vous semez? Si vous semez des paroles négatives, vous allez récolter le négativisme. Si vous semez des paroles positives, vous récoltez le positivisme. Sachez-le, ce que votre langue profère, c'est ce que vous allez récolter. Et ce que la Bible nous dit dans Proverbe 12, le verset 14, il dit, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Vous voyez, non? Ce que l'homme aura semé, c'est ce qui moissonnera. C'est le premier psaume. Et deuxième psaume, on moissonne pour ce qu'on a semé. Et on a dit que par votre bouche, vous pouvez être rassasié de bonnes choses, comme vous pouvez être rassasié de mauvaises choses. Ça dépend de ce que vous dites par votre bouche. Voilà pourquoi vous devez faire beaucoup attention avant d'ouvrir votre bouche et de dire quoi que ce soit. Vous devez veiller à ce que des choses négatives ne sortent pas de votre bouche. Si vous êtes là à maudire les gens, la malédiction vous reviendra toujours. Si vous bénissez, la bénédiction vous reviendra. Car ce qu'on aura semé, il le moissonnera. Et je vous dis, deuxième axiome, on moissonne plus qu'on a semé. Troisième axiome, la récolte est proportionnelle à la semence. Votre récolte est proportionnelle à ce que vous avez semé. Ça veut dire quoi? Lisons 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6. Et vous allez comprendre. 2 Corinthiens 9, verset 6. Il dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Je redis. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça veut dire quoi? La récolte est proportionnelle à la semence. Si vous semez une petite semence, vous aurez une petite récolte. Si vous semez une quantité énorme, vous allez récolter énormément de récoltes. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous cultivez un hectare de maïs, n'attendez pas à récolter la même quantité de maïs que celui qui a cultivé 10 hectares. Car la récolte est proportionnelle à la semence. Celui qui sème peu, moissonne peu. Quel temps tu consacres à Dieu, c'est une semence. Le temps que tu consacres à Dieu, si c'est peu, il faut s'attendre à ce que tu puisses récolter peu de fruits auprès de Dieu. Vous n'avez pas le temps pour Dieu. Vous n'avez pas le temps d'aller à la répétition en tant que chante. Vous n'avez pas le temps d'aller au séance de jeûne et prière. Vous n'avez pas le temps pour aller à l'étude biblique. Vous n'avez pas le temps. Mais vous voulez que Dieu vous donne beaucoup de choses. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qui moissonnera. Lorsqu'il s'agit de semer dans la maison de Dieu, d'apporter de l'offrande dans la maison de Dieu, quel genre d'offrande vous apportez? Lorsqu'il s'agit de réaliser quelque chose dans la mission, dans l'église, quelle est votre participation? Lorsqu'on doit aller apporter l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas, quelle est votre participation? Vous demandez à Dieu, bénis-moi. Bénis-moi en abondance, bénis-moi en abondance. Avez-vous semé aussi abondamment? Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Vous devez savoir, ici, il y a ce qu'on appelle la loi de mesure. La manière dont vous avez mesuré, c'est cette manière qu'on vous mesurera aussi. La récolte est proportionnelle à la semence. Quand vous allez à l'église, quand le moment des offrandes arrive, qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Les pièces ou bien des billets? Ce que l'on aura semé, c'est ce qui moissonnera. Vous semez des pièces, vous récoltez des pièces. Vous semez des billets, vous récoltez des billets. Et on récolte plus qu'on a semé. Et troisième axiome, la récolte est proportionnelle à la semence. La quantité de ce que vous récoltez est lié à la quantité de la semence que vous avez fournie, que vous avez plantée. Et aucune loi, aucune prophétie ne peut aller contre cela. C'est pour ça, Proverbe 11, verset 24, il dit ceci. Celui qui, tel qui donne libéralement, tel qui donne libéralement, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. Je reprends. Tel qui donne libéralement, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. Ça veut dire quoi? Si vous épargnez à l'excès et que vous n'investissez pas, vous ne pouvez pas faire fructifier votre ressource. Vous ne pouvez pas fructifier votre ressource. La loi de la fructification exige que vous investissez. Il n'y a pas de développement sans investissement. Et vous ne pouvez pas avoir l'abondance si vous n'investissez pas. Un investissement, c'est une semence. Plus vous investissez dans le royaume de Dieu, plus le royaume de Dieu se met à votre disposition pour vous enrichir. Plus vous investissez dans la vie des gens, plus les gens aussi vont investir dans votre vie. C'est pourquoi je trouve du plaisir à faire du bien aux gens. Je trouve du plaisir à partager avec les gens ce que Dieu me donne. La parole que Dieu me donne. Les moyens que Dieu me donne. Autant que j'en ai l'occasion. Ou je vois quelqu'un dans le besoin. Je n'hésite pas à lui venir en aide. Parce que je connais cette loi. Et Dieu m'a accordé cette grâce. De connaître cette loi spirituelle. Et quand j'ai commencé par appliquer cette loi spirituelle, j'ai vu comment les choses ont commencé par fonctionner. Et j'ai compris pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu sont pauvres et misérables. Parce qu'ils enseignent beaucoup de choses aux gens que mais ils n'appliquent pas. Vous enseignez aux gens de donner, vous-même vous ne donnez pas. Je vois au cours de l'offrande, beaucoup de pasteurs qui ne donnent pas d'offrande. Toi qui m'écoutes là, tu demandes au père d'apporter les dîmes. Est-ce que toi-même tu apportes la dîme à ton père spirituel? Est-ce que toi-même tu donnes la dîme? Tu demandes aux gens d'apporter les prémices. Est-ce que toi-même tu donnes les prémices à ton père spirituel? C'est toi-même qui manques tout. Voilà pourquoi les gens ne donnent plus même les prémices, ne donnent plus même les dîmes. Et tu dis que le peu que avec qui je suis là, il ne donne pas. Est-ce que toi-même, tu es un semeur? Est-ce que tu donnes? Ben, tel qui donne libéralement, devient plus riche. Et ce qui épargne à l'excès, s'appauvrit. C'est un secret de la richesse, de l'abondance. Que donnes-tu? Que donnes-tu à l'éternel Dieu? C'est là que les anglophones ont dépassé nous les francophones. Les francophones sont des cupides. Les francophones chrétiens sont cupides. Lorsqu'ils essaient de donner à Dieu, ils calculent, ils réfléchissent. Et ils apportent des miettes à Dieu. Tout comme si Dieu est un mendiant. Écoute-moi bien. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Toute la richesse du monde, tout l'univers est sa propriété. C'est quoi il a dit? Si j'ai faim, je ne vais pas vous demander de me donner et des animaux, parce que tout est à moi. Donc tout est à l'éternel Dieu. Donc, s'il nous a dit d'apporter, c'est pour nous mettre à l'épreuve, pour voir si nous reconnaissons que c'est lui qui est le donateur, que c'est de lui qui émane la richesse. Et si vous connaissez cela, vous n'en avez pas hésité. Et si vous savez que vous n'êtes pas les propriétaires des biens, vous n'êtes pas les propriétaires de la richesse, vous n'êtes pas les propriétaires des biens que vous avez, vous n'êtes pas les propriétaires des biens que vous possédez, de l'argent que vous avez. Vous n'êtes pas propriétaire de cela. Le vrai propriétaire de toutes choses, c'est celui qui a question de l'univers, c'est l'éternel Dieu. Nous ne sommes que les administrateurs, les gérants des biens de Dieu. Et pourquoi? C'est difficile pour nous. Quand Dieu veut réaliser ceci pour le Seigneur, on veut réaliser ceci dans la maison de Dieu, vous avez du mal à faire sortir de l'argent. Par contre, les anglophones, et ça fait beaucoup de joie, ils mettent la main dans la poche et ils donnent au-delà de ce que même on leur a demandé. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que celui qui les a dit de donner, c'est lui qui est l'auteur de la richesse. Et ils savent que celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Vous écoutez la radio Maranatha? C'est vrai. Quel investissement vous faites dans la radio? Quel semence vous faites dans la radio? pour que la radio puisse continuer à émettre, pour que la radio puisse continuer à vous apporter la parole de Dieu chez vous. Êtes-vous parmi les amis de la radio de Manhattan? Ceux qui soutiennent cette radio par les gestes, par moi, mais pourtant vous dites que la radio vous a fait du bien. C'est bien, si la radio vous a fait du bien, soyez reconnaissants. Et non seulement cela, investissez pour que cette radio puisse continuer. Ce sont des hommes, des femmes qui travaillent là-bas. Ils doivent manger. Ils doivent aussi envoyer les enfants à l'école. Ils doivent payer aussi le loyer. Bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui s'aime peu, moissonne peu. Celui qui s'aime beaucoup, moissonnera beaucoup. Là où il s'agit d'investir pour le royaume des cieux, n'hésite pas à le faire. Et tu récolteras. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le temps est parti. Et nous allons, je vais clôturer par ce verset-là qui stipule cette loi de la semence et de récolte. C'est Dieu même qui l'a dit. Et il dit que cette loi-là ne sera jamais anéantie. Genèse 8, verset 22. C'est Dieu qui parle. Il dit, tant que la terre subsistera, les semences et la moisson, tout comme le froid et la chaleur, ou bien l'été et l'hiver, tout comme le jour et la nuit, ne cesseront point. Vous entendez? Tant que la terre existera, la loi de semer et de récolter, c'est-à-dire les semences et la moisson, ne feront jamais défaut. C'est-à-dire que c'est une loi qui existera tant que la terre existera. Bien-aimé dans le Seigneur, appliquera cette loi et tu vas voir ce que cela va t'apporter. Parce que Dieu est un Dieu de principes et vous ne pouvez pas extrapoler ces principes et avoir ce que lui il a recommandé ou bien ce que lui il a pour ceux qui obéissent à sa parole. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous au nom puissant de Jésus. Amen.
Vous venez de suivre la puissance de la parole de Dieu. Elle est animée par le prophète Adankon Emmanuel de la Mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation. L'église est située à Akwakwa, en face de Ciné Concorde, dans la Von appelée Von Sokodo. Voici nos programmes, mercredi et vendredi. À partir de 19h30, cours biblique. Dimanche, premier culte en français de 8h à 10h30. Deuxième culte en goût de 10h30 à 13h. Les derniers dimanches et les jours de fête, le culte est unique, accompagné de témoignages à partir de 9h. La puissance de la parole de Dieu, qu'on Dieu bénisse ce que vous avez écouté.